Toulon, sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Finale du championnat de France le 6 juin 1992. Dans une heure et demie, le RCT va se hisser au sommet du rugby français. Une épopée que personne n'imaginait. 30 ans après, Varmatin a retrouvé les hommes qui ont écrit l'histoire du rugby club toulonnais.
Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai.
Oh, c'est joli.
Lorsque André Herrero en devient le président à l'été 1991, le RCT est au bord du précipice financier. André est le frère de Daniel, entraîneur mythique au bandana rouge qui vient de quitter le club. Mais André Herrero est surtout considéré comme l'un des plus grands joueurs toulonnais, une légende. Ancien deuxième ligne international, l'homme a une aura qui va au-delà de la rade, sa seule présence impressionne. Dans une saison difficile pour le RCT, il y a comme un déclic, un match perdu face à Colomiers, une petite équipe du championnat, avec près de 30 points encaissés. Tout le monde pense qu'André Herrero va hurler dans le vestiaire, mais ce n'est pas ce qui va se passer et paradoxalement sa réaction va entraîner le réveil des Toulonnais. En 10 épisodes, les journalistes des sports de Varmatin se replongent dans la folle aventure du sacre du RCT.
Oh, c'est bien vu le diable, et ça passe.
André Herrero, le grand qui ramène Toulon au sommet. C'est Pierikili Krufinati qui l'a rencontré.
Alors aujourd'hui, je pourrais parler aux joueurs, je pourrais parler à l'entraîneur du RCT, mais aujourd'hui, c'est bien au président du RCT que je m'adresse. Comment va l'ancien président du RCT, André Herrero?
Eh bien, il va un peu pas trop mal, même si il a pas mal de douleurs et quelques rhumatismes, mais il fallait bien s'y attendre. Je suis toujours intéressé par ce jeu, par ce sport, même si les situations sont très différentes de l'époque que nous avons vécue. Mais il y a beaucoup de parallèles qui font que c'est toujours, quand tu as mordu dedans, tu es toujours intéressé, tu as toujours le goût de... du fruit dans la bouche.
30 ans plus tard, est-ce que tu te rappelles où tu étais un soir de juin 92?
Ouais, je m'en rappelle parce que quand Daniel se retrouve dans cette difficulté et qu'il n'a pas envie de continuer l'aventure toulonnaise avec moi, et je me suis retrouvé un petit peu dans l'embarras. Balator était candidat à être entraîneur. Et on se réunissait assez souvent. On essayait de faire... Il y avait des joueurs qui étaient partis. Il fallait remonter une équipe. Daniel avait beaucoup travaillé sur des jeunes. Et on avait une formation qui marchait très bien. Et d'ailleurs, Daniel... aurait dû rester et s'en servir, parce que je pense qu'il aurait eu des résultats meilleurs encore que ce qu'on a pu avoir. C'est l'époque de Delegue, c'est l'époque de Tessier, c'est l'époque du talonneur de Rougemont, tu vois, c'est l'époque où il y a encore un pilier là, qui est parti après à Toulouse, qui s'appelait...
Califano.
Califano. Ouais. Ils avaient tous 19 ans, 20 ans. Hein. Alors... on se réunissait, on essayait de voir comment ça pourrait tourner. Et effectivement, Balator, qui avait vraiment envie et qui était déterminé, avec notre expérience et ses jeunes, on a dit, bon, on va faire un challenge, on va essayer de relancer une équipe. Et on a relancé cette équipe avec tous ces joueurs, tous ces jeunes joueurs.
Justement, toi, tu arrives en 1991, à l'été 91, ouais. Tu remplaces Victor Agostini, alors président. Comment se déroule ton arrivée? Parce que tu avais déjà été grand joueur, grand entraîneur. Comment est-ce qu'on vient te contacter? Qui t'appelle et comment tu acceptes?
Eh bien, j'accepte parce que la situation du rugby à Toulon est en difficulté. On a des gros emprunts sur le dos qu'il faut payer. On a des difficultés financières. Il y a pas mal de joueurs, parce que là aussi, quand Daniel ne continue pas, il y a quelques joueurs que Daniel avait recrutés qui repartent. Et on se retrouve, disons, un peu cerné avec les Toulonnais et les jeunes. Et moi, le challenge me paraissait jouable, sans une ambition démesurée, mais relancer une équipe qui avait une essence toulonnaise, parce que ces jeunes avaient quand même de la qualité. Et il y avait une génération qui arrivait, qui était plutôt intéressante, porteuse. Mais moi, je n'étais pas forcément concerné au départ. Ça s'est passé après en quelques jours. Quoi.
Tu as accepté tout de suite ?
Ben, je n'ai pas accepté tout de suite, parce que j'ai vécu, moi, un peu comme une déchirure, là, le fait que Daniel ne veuille pas travailler avec moi. Et Daniel avait mal pris le fait que je devienne président, et il voulait rester libre de son comportement. Il savait que si j'étais président, on aurait certainement des accrochages, ce qui peut effectivement se faire. Hein. Et il n'a pas voulu aller jusqu'à ça, quoi. Il a dit, bon, moi j'arrête. En plus, il avait des propositions pour aller entraîner le PUC, tout ça, à Paris, tu vois. Il commençait à rentrer dans les systèmes de presse, dans des conférences, tu vois. Il était rentré dans une autre vie un petit peu qui le passionnait et qui était aussi intéressante, d'ailleurs.
Parce que là, du coup, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de quiproquo. Toi, tu arrives en te disant, je vais entrer. Enfin, il y aura mon frangin qui sera à la tête de l'équipe et moi à la tête du club. Et Daniel, lui, dans l'autre sens, il c'est pas qu'il prend la mouche, mais il voit la chose à l'envers. Il se dit mince, il va me faire de l'ombre.
Voilà, il pense que c'est une punition, quoi, si j'arrive. Que je vais pas, qu'il sera moins libre et qu'il pourra peut-être pas.
Ça aurait été le cas, en effet.
J'en sais rien. Moi, je suis contre le recrutement. Je disais, moi, cette équipe, quand elle a joué. Il y a eu un de recrues qui sont venus nous renforcer, mais c'est des gars qui sont venus de même, hein. Ils sont venus parce que c'était nous qui avions toutes affaires. Mais moi, j'ai jamais été pour un recrutement, j'étais pour travailler dans le club pour l'épanouissement des joueurs du CRU, ou de la région, hein. J'avais toujours des joueurs de hier, de la Valette, ou de la Seine. Hein. Tu prends les équipes, il y a toujours 3-4 Sédois, 3 ou 4 gars de hier.
Donc tu prends l'équipe en 91-92, voilà. Voilà, cette déchirure avec Daniel. Vous, à ce moment-là, tu en discutes avec lui, vous posez en tête-à-tête autour d'un café, vous en discutez tous les deux?
On en a discuté qu'une fois, et ça s'est pas très bien passé. On en a discuté qu'une fois, Daniel était à vif, moi j'étais pas prêt à entendre tout et n'importe quoi. Et ça c'était, notre discussion a été brève, et il m'avait dit non, moi je veux pas travailler avec toi, moi ça va. C'est pas gentil, oui, mais toi non plus, ça n'a pas été gentil. Bon, tu vois, c'est un petit peu un regret que j'ai, que je n'ai pas pu convaincre mon frère. Quoi.
30 ans après, on est 30 ans après, est-ce que vous avez eu l'occasion de refaire le match une fois tous les deux, d'en rediscuter de cette situation?
Oui, on discute, on est arrivé à en discuter, encore il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a eu, entre-temps, il y avait eu une querelle. Daniel avait fait en 68, quand on fait la finale, avait joué toute la saison. Comme troisième ligue. Et il y avait un joueur qui poussait à la porte, qui s'appelait Monet. Et ce gars était un pas très bon attaquant, mais un très bon défenseur et un gros physique, un grand coureur, tu vois. Et quand on fait la finale, alors, mon frère Daniel avait joué tous les matchs. Un coup l'autre, Monet jouait de temps en temps. En fait, Daniel était vraiment titulaire incontesté. Et le jour de la finale, quand il faut construire l'équipe, il y a en face des Gachassin, Lacaze, Boniface, enfin non pas Boniface, enfin, il y a une ligne de trois quarts qui est réputée très, très difficile à manier, et je favorise le défenseur plutôt que l'attaquant. Et là j'ai eu tort. Parce que avec le recul, après, je me dis que c'est une erreur de jeunesse, si tu veux. Parce que il faut jouer avec ses armes. Et nos armes, quand tu joues au rugby, c'est marquer des points. Et bah, il faut marquer plus que l'adversaire. Même si tu en prends des points, il faut marquer plus que l'adversaire. C'est... Et là, j'avais pas fait le bon pari. Et Daniel avait mal vécu. Daniel, ça avait aigri, ça. Et je peux le comprendre. Hein. Mais bon, moi, je voulais pas... J'avais déjà des bruits ou des querelles avec des supporters. Alors, il y avait Francis, il y avait Daniel, il y avait moi. Il y avait déjà un directeur à faire jouer sa grand-mère, tu vois. J'avais des salades qui partaient un peu de partout.
Ah, le public, il ne fait pas
de cadeau. Pas de cadeau, non, non. Surtout moi, entre-temps, je m'étais cassé une jambe, j'étais revenu, mais c'était difficile. Et voilà, tu vois, c'était toujours un petit peu pesant. Toulon, ça n'a jamais été une équipe linéaire qui part d'un point qui va à un autre.
Ça n'a jamais été le long fleuve
tranquille. Tu as toujours des hauts et des bas.
Et est-ce que tu penses que cette rivalité, donc là, donc 68, c'est la finale dont tu parles, 25 ans plus tard, du coup, donc tu reprends la présidence du club, et tu penses que c'est le début, peut-être, de cette scission entre vous, elle explose à ce moment-là, en 91, quand toi, tu arrives au club ?
C'est certainement l'élément qui a fait que nos chemins se sont éloignés. On peut dire qu'on n'a jamais été fâchés, on a toujours eu des rapports familiaux normaux, mais... Il y a eu une rupture, effectivement, ça c'est clair. Je pense que Daniel a un tempérament fort, moi je n'ai pas un tempérament facile, tu vois, alors... Mais il y a beaucoup de... Moi je sais que je donnerai ma vie pour mon frère, hein. J'ai pas l'ombre d'un doute. Hein. Mais bon, on est sur une action, on est sur le feu d'un truc...
Du coup, tu vois donc avec grand regret partir Daniel. Et là, tu décides de le remplacer. Comment te vient l'idée de Jean-Claude Balator, que tu connaissais déjà ?
Non, mais Jean-Claude Balator, c'est toujours été un très bon ami. Et tout le temps, très inspiré par ma façon d'entraîner. Et il prenait des notes en permanence quand je faisais l'entraînement, même quand il jouait. Hein. Tu vois, il aspirait à devenir entraîneur et il avait une grosse passion pour l'entraînement. Et moi, ça me plaisait qu'il relaie quelqu'un.
En qui tu avais confiance ?
En qui j'avais confiance, que je connaissais. Alors voilà un petit peu l'avènement de Balator qui, je savais qu'il avait une grande envie de le faire. Je savais qu'il ferait le maximum et que surtout, on aurait une certaine coordination sur les idées que vous voulez appliquer. Même si lui aussi, il était comme Daniel, il était quand même des personnages, hein, c'est pas des... Mais bon, avec moi, il y avait plus de respect qu'un frère qui est plus à vif, quoi. Et on a 15 ans d'écart, quoi. Pas 15 ans, 10 ans d'écart. Lui est de 48 et moi je suis de 38.
Sauf que toi, à ce moment-là, donc, tu reprends le club, départ de Daniel, arrivée de Jean-Claude. Et sauf qu'il y a aussi une génération, Daniel, c'est aussi une génération, des joueurs comme Eric Chambre, comme Thierry Louvet, qui ont tout gagné avec lui, qui donneraient leur vie pour la sienne.
Ouais.
Comment tu récupères l'équipe ? Quel est ton discours à ce moment-là ? Comment tu fais pour imposer ?
Mais là, quand Daniel arrête, il perd les trois quarts d'une équipe. Il y a pas mal de joueurs qui retournent d'où ils étaient venus. Et il avait énormément recruté, il y avait beaucoup de joueurs. Il n'avait pas encore eu des résultats qui étaient forcément très positifs, tu vois. Il avait bien construit, mais enfin, c'était que des gens qu'il avait recruté, enfin, de bons joueurs. Hein. Et ce n'était pas ma politique, ce n'était pas le chemin que... Et Daniel devait le ressentir, ça.
Toi, tu avais une vision plus...
Moi, il fallait avoir un petit accent méridional.
Au moins de Toulon, Solliès.
Jusqu'à hier, à Marseille, on pouvait y aller, quoi.
Du coup, tu reprends cette équipe, sauf que ça prend pas tout de suite. Sauf que Jean-Claude, il a des idées.
Que ça prend pas du tout. On débute avec 5 juniors, on débute avec quelques anciens. On avait reconstruit une équipe de fond en comble, hein. On ne savait pas qui allait jouer à l'ouverture, ni au centre, il y avait tout. On a fait de la formation aux entraînements, on regardait qui était celui qui avait le plus d'aptitude pour jouer à l'arrière. On avait débuté les premiers trimestres. Et on a débuté le premier trimestre à 0 victoire. Pratiquement tout perdu, ou match nul, y compris à Toulon. Ça m'a dit. Moi, je ne me décourage pas, Jean-Claude non plus, bosse, mais ça trouve le temps long quand même, tu vois. Et puis, il y a un déclic à un moment donné. Reçoit Colomiers, c'était un petit peu une petite équipe Colomiers par rapport à Massy, parce qu'on devrait être nous. Ils viennent à Toulon et ils nous gagnent. Et là, je ne me fâche pas encore, tu vois, je reste toujours très, très, J'ai dit, bon, les gars, on n'a qu'une chose à préparer maintenant. C'est la revanche de retour à Colomiers. Il faut qu'on aille gagner à Colomiers. Hein, parce que si on ne gagne pas à Colomiers, pour un cas être qualifié, on ne peut pas dire qu'on reste à première division. Oui, oui, on fait tout ça, tout le monde un peu penaud. Et on continue cette saison jusqu'au mois de novembre, décembre. Et il arrive le jour de Colomiers. Il arrive, match retour, on va à Colomiers. Les gars, vous vous rappelez ce qu'on a. Ce qu'on s'est dit, alors. Ouais, André, on peut faire confiance à moi. Alors, ils s'entraînent bien, tout ça. On va à Colomiers. Premier quart d'heure, Colomiers. 11-0. On marque 3 points, on termine le match, on prend 20 points, on marque 7 ou 8, et on rentre au vestiaire. Les mecs, tous penauds, tous des mecs, comme ça, tête basse, assis sur un banc, derrière les serviettes qui pendouillent. Et les gars, j'ai dit, écoutez les gars, on est tous du même pays, on aime tous le rugby, si on n'est pas trop bon, on n'est pas trop bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce qu'on peut, apparemment vous ne pouvez pas. Ah bon, je ne voudrais pas te demander des choses trop difficiles. Alors on va revoir le rugby différemment, on va jouer pour se faire plaisir. Et je le prends avec le sourire, avec un peu d'amertume, mais je ne dis pas un mot de travers. Rien. Je dis maintenant, on va rentrer, on va s'amuser. Le championnat, il est pratiquement fini, nous, on ne peut pas se qualifier. Mais... Bon, les mecs, oh, sidérés. À partir de là, le dimanche, méconnaissable, les mecs. Fais ça.
Des Lions.
On a commencé à gagner les matchs, on a commencé à se requalifier, et on a commencé les matchs éliminatoires, on a commencé à gagner contre des clubs largement plus huppés que nous, et on arrive jusqu'en finale, avec une équipe où il y avait 5 juniors, qui avaient pendant 2 mois appris, si tu veux, le B.A.B.A. et même ce qu'il ne fallait pas faire, et après, il y a une espèce d'euphorie collective qui se crée. On va gagner un match qui était ingagnable, on est mené de 12 points, contre Tarbes, à un match à Narbonne, où il y a un gros vent, mais à Narbonne, qu'il y a du vent, je ne sais pas si tu connais, mais alors, s'il y a un vent, c'est terrible. Tarbes, une nouvelle de 12 ou 13 points. Le match, il reste 10 minutes à jouer. Et bien, le match, il tient. On avait remonté quelques points. On marque 2 fois contre le vent. Et transformation dans les angles, complètement infaisable. Et réussi les 2 transformations et on fait match nul. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Delegue, Tessier, de Rougemont, le deuxième ligne, Orsoli. Orsoli, pareil. Sur Orsoli, un jour, je suis à Mayol, je suis, je sais pas d'où j'arrive, je croise Orsoli devant le stade. Gérald, comment vas-tu? Il jouait un peu avec les juniors, tu vois, et c'était un espoir, quand même. Il dit, ça va, André. Il me dit, je vais au club parce que je vais signer une licence à Narbonne. J'étais fou, quoi. Tu as ta place chez nous? Il me dit, comment? Non, mais tu sais, bon, je voulais changer un peu d'air. J'ai dit, écoute, après, c'est tombé. Maintenant, tu as tous les collègues qui vont jouer. Et moi, je compte sur toi, franchement. C'est de semaine que tu quittes le club, quoi. En plus, tu as toute la chance de t'imposer. Enfin, j'arrive à le convaincre et il reste à Toulon. Mais si j'ai repêché, par hasard. Hein.
Si tu le croises pas...
Je le croise pas, il va... Pas normal. Hein.
Je reviens un peu sur le début de saison. Ça se passe pas très bien. Comment le nouveau président vit ça? Le président qui était joueur, qui est entraîneur, est-ce que tu interviens? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu vas dans le vestiaire? Est-ce que tu laisses Jean-Claude Balatore? Comment tu vis un peu tout ça?
Jean-Claude... Je laisse beaucoup Jean-Claude qui a préparé son équipe. Mais Jean-Claude reste un lien de fraternel, j'allais dire paternel avec moi. Jean-Claude, par exemple, voulait que je donne le ton du match à l'équipe avant le match. Il voulait que je mobilise les joueurs, que j'ai les derniers entraînements de la semaine, et il me disait de prendre la parole pour que j'explique comme ma vision du match qu'on allait jouer. Parce qu'il était tout en osmose avec cette façon de voir de match. Et j'avais un impact que lui, il avait moins, puisqu'il jouait, il était au contact, c'est un peu plus difficile quand il est en permanence avec eux. Et ça a été un petit peu le fonctionnement qu'on a fait jusqu'à la fin. Et à la fin, j'avais plus besoin de parler, parce que les mecs savaient ce qu'ils avaient à faire, et Delegue et compagnie avaient confiance. Hein.
dans ta tête quand tu intervenais dans le vestiaire? C'est quand même rare, un président qui parle. Est-ce que tu étais l'ancien joueur, l'ancien entraîneur, le président? Dans ta tête, quel rôle tu essayais d'occuper?
J'essayais d'être, malgré tout, parce que Jean-Claude aurait mal vécu que je sois l'entraîneur. J'étais plutôt le gars expérimenté des matchs difficiles et qu'il fallait, comment il fallait les aborder, comment il fallait les prendre et le comportement qu'il fallait avoir.
Et tu penses que les joueurs te voyaient, donc les joueurs, donc il y en a certains qui ont 18 ans, il y en a qui ont 30 ans, qui ont déjà gagné des titres, et tu penses que cette forme de respect qu'ils avaient pour toi, pour ce que tu avais accompli jusqu'à présent, ça comptait aussi, ta parole, elle était forcément...
Je pense que ce qui était resté... Mais moi, j'avais quand même eu 3 ou 4 recrutements qu'on avait fait venir, d'ailleurs, qui étaient... comme tu dis, Robin qui était venu, personne ne le voulait. Il était à Lourdes, et Lourdes l'a foutu dehors. Moi, on l'avait récupéré, c'était Jean-Claude qui l'avait récupéré, très exactement. C'est lui qui m'avait dit de le recruter, parce qu'il le connaissait. Mais bon, moi, j'avais fait plutôt du management d'expérience, quoi, tu vois. J'étais pas rentré dans le détail, comme doit rentrer l'entraîneur sur le détail, sur les placements, sur les replacements. C'était sur l'état d'esprit, l'approche du match, du combat, la détermination qu'il faut y mettre, les trucs... D'ailleurs, qui sont en parallèle avec ce qu'il disait l'amateur, hein, c'est Jean-Claude.
On a eu des joueurs depuis, comme je te l'ai dit, on a déjà fait des épisodes, et on nous a dit, l'avantage, c'est qu'André, bon, bah, nous, on le voyait tous les jours, on le connaissait, on le respectait, mais quand on se déplaçait, les adversaires regardaient André Rau, ils avaient, à 50 ans, ils avaient encore peur de lui. Est-ce que ça aussi, ça comptait, tu crois, dans la tête du rugby?
Ça, c'est des gens d'un petit peu... Comme je te dis, j'ai eu pas mal de bagarres, mais d'incidents, tu vois. Les injustices m'horripilaient, j'avais des difficultés avec les arbitres. J'avais une copain qui avait une expression, d'ailleurs qui était un ancien joueur. Il me disait, André, chaque fois qu'il y a une pierre, tu files un coup de pied dedans, tu vas te casser le pied un jour.
Il n'avait pas tort.
Il n'avait pas tort. Il me dit, chaque fois tu es en train de rouspéter, il me dit, ce qui le mérite, ce qui le mérite, moi, il fait le tri, quoi. Ça m'avait servi, quand même. Un conseil comme ça, en passant.
Il y a ce match contre Aurillac.
Le premier match du début de
l'épopée. Qui relance l'épopée. Parce que celui-là, si vous le perdez, vous redescendez probablement en deuxième division.
Probablement.
Ce jour-là, on parle avec Eric Chambre qui nous dit, dans le regard de Jean-Claude et de André, je comprends...
Qu'il ne veut pas la perdre.
Qui valait mieux pas le perdre ce match-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce match-là et comment tu...
C'est un peu des matchs de la peur. C'est un peu des matchs de la peur, mais il faut le maîtriser sur la sérénité, parce que même si tu as peur, tu ne peux pas faire transmettre la peur, ça peut avoir de positif. Alors après, il faut trouver les résonances du fait que on va décevoir des tas de gens, qu'on va être déçus nous-mêmes. Ça rentre plus que dans le sport, c'est vraiment, il y a un problème affectif profond entre les individus qui sont sur le terrain et qui sont appelés à mission à défendre le club, et que tu peux pas trahir, tu peux ne pas être bon, tu peux faire une tête, manquer un ballon, ils en ont manqué hier des ballons, mais tu sentais que les mecs ils étaient tous déterminés pour gagner, que ce qui comptait c'était de gagner après.
Dans ta tête, est-ce que tu te dis que ce match peut compromettre l'avenir du club ?
Je sais que si ce match se passe pas bien, ça peut effectivement... Moi, je peux m'arrêter, ou on peut me demander de m'arrêter. Et je pense que je me serais arrêté moi tout seul. Mais que le challenge, il était à relever, je n'avais pas su le relever, je n'avais pas su... remonter cette équipe.
Est-ce que tu as peur qu'on te pointe du doigt à ce moment-là? Est-ce que tu dis que ce sera mon échec aussi?
Oh, je ne pense pas à ça quand même. Mais c'est vrai que bon, je suis fier pour éviter l'échec, hein, je veux dire, le plus possible. Hein. Je me suis bien nagé plusieurs fois physiquement pour éviter l'échec. Après, bon, tu joues. Hein, enfin, ta vie, tu as joué, toi. Tu joues au rugby, tu joues au boule, tu joues aux cartes. J'ai travaillé un peu.
Au milieu de tout ça.
Ouais.
Finalement, vous gagnez contre Aurillac. L'épopée se lance. On parlait de Tarbes tout à l'heure.
Difficilement contre Aurillac. Difficilement. Après, on anime encore. C'est encore difficile. Les deux premiers matchs. Et puis, ça se déclenche.
Comment? Qu'est-ce que tu perçois, toi, à ce moment-là, en tant que...
Eh bien, je perçois que les mecs, ils respirent mieux. que dès que les gars, j'avais retrouvé un petit peu l'accent. Je retrouve un peu la situation de Colomé, où je sais que là, je joue l'avenir de l'équipe. Bon, le bien, et c'est beaucoup moins important, mais enfin, et que on aura manqué l'échalage, on aura perdu l'échalage, on n'aura pas été capable de le relever. Et là, de pas se qualifier, bon, on était arrivé à avoir une qualification de raccro, si tu veux, puisqu'on était les derniers clubs. Mais on l'avait gagné de nos propres moyens, quoi. Et le challenge. Et en plus, c'était pas les bons matchs qu'on a fait. Les deux premiers matchs ont été très moyens chez nous, là. On passe deux fois, limite, hein, parce qu'on n'est pas franchement libéré. Et après, alors quand il est libéré, je te dis, il arrive, on fait des trucs, après, ligne de pas de pas prétentieux, mais de bon niveau, tu vois, les mecs, ils ont confiance. Que...
Tu sens que ça s'enclenche?
Oui, tu le sens. Hein. Le report, tous ces mecs là, qui étaient des bons joueurs, qui jouent à la balette, tout ça, tu vois. Ils s'éclatent, quoi, ils jouent, ils se lâchent. Voilà, c'était gagné après pour nous. Après le deuxième match de qualification, on n'avait pas la prétention d'être champion de France, hein, on n'a jamais pensé. Champion de France jusqu'au jour de la finale. Après, je te dis pourquoi pas.
À quel moment tu te dis, bon, c'est pas notre objectif, mais là, si on gagne encore ce match, et on va finir par, au bout du compte.
Je vais te dire, le match qui est charnière, c'est vraiment le match contre Tarbes, là, que je te dis. L'entraîneur en face, c'est l'ancien talonneur de l'équipe de France, d'Intrans, qui est un leader, hein. Mais c'est un leader de combat, c'est Philippe Dentrance, c'était une star de l'époque. Hein. Et il fait une erreur technique. Hein. On est en difficulté en mêlée contre cette équipe de Tarbes. On a un pilier qui souffre le carcan. Et lui, je ne sais pas pourquoi, dans quel but, il change ce pilier, il le fait sortir, et il en met un autre, hein, qui à côté est une pipe, hein, qui à côté... On le mange, on le broie.
Il reste combien de temps à jouer, là?
Il reste demi-heure à jouer. Et on a 12 points de retard, comme je dis. Il a fallu marquer ces 12 points, transformer contre le vent. Enfin, c'est miraculeux, c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie. Mais c'est Philippe Dentrance qui nous file un coup de main en faisant sortir un pilier qui nous détruisait la mêlée et qui a permis à nous reprendre et avoir des situations de...
T'as eu l'occasion d'en rediscuter avec lui, de le remercier?
Je lui ai dit des fois, ouais, mais tu rigoles, je dis, ouais, c'est la vie, c'est le hasard. Hein. Mais c'est vrai que nous, quand t'as sorti ce pilier, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. C'était un pilier de mêlée, bon que dans la mêlée, mais je me disais, là, il est couché de travers, je ne sais pas trop quoi. Nous, on avait Michel Perrier qui débutait, des trucs comme ça, tu vois. Le Rougemont qui était à l'honneur depuis peu. Fait, ouais.
Et donc là, vous basculez ce match contre Tarbes, tu sens que les choses s'enclenchent. Et ça vous mène jusqu'à Biarritz.
Eh bien là, après, tu te dis, pourquoi pas. Tu te rends compte que on ne croyait pas avoir de buteur. On a un buteur qui se blesse, hein, et on dit, Pascal Jette, on a vu que tu t'appelles pas trop mal, tu vas buter. 50 mètres, boum, il passe. Deux transformations dans le coin, boum, il passe.
Bon.
Il n'avait jamais buté pratiquement de sa vie. Il n'avait pas buté comme ça pour s'amuser.
Là, les étoiles s'alignent, si
j'y peux. Ah oui, là, je dis, il y a un truc, là, tu es sur le chemin de la chaise, quoi, il y a la réussite. Hein,
et là, ça vous emmène jusqu'au Parc des Princes, donc
oui, alors là, après, tu rencontres les équipes UP. Moi, je prenais la situation du modeste, je disais toujours, bon, nous, on est contents d'être là. Je ne dis pas que vous vous laissez gagner, mais nous déjà, on a fait une belle saison, on est content.
Si ça s'arrête aujourd'hui.
Et après, il faut les manger.
Dans le vestiaire. Et tu leur disais quoi alors? Alors là, on est au Parc des Princes, juin 92, qu'est-ce que tu vas dire à tes mecs?
Là, calme intégral, détermination totale, pas un mot, et on avance toujours. Et on avance, et on avance, et on avance, dans toutes les situations. Et d'avancer dans ce sport, rugby, c'est essentiel.
Ça fonctionne, ça vous mène jusqu'à la victoire. Là, qu'est-ce qui ressent le président? À ce moment-là, qu'est-ce qui se dit? En termes de joie, dans tout ce que tu as connu dans ta carrière de joueur, entraîneur, président, où est-ce que ça se situe?
Ben, ça se situe... Oh, ben, c'est la surprise intégrale. Hein. J'avais connu pas mal d'épopées en rugby, moi, avec les tournées à l'équipe de France, en Afrique du Sud. j'avais pas la victoire m'a mené un bonheur, mais c'était assez curieux, c'est après c'est personnel. C'est-à-dire que là, c'était quelque chose que tu partageais avec le public. Là, notre championnat de France à Toulon, après avoir été décrié, après avoir dit c'était l'équipe de Chèvre, tout. Et on devient champion de France, c'était énorme. La ville était en folie, bon, comme hier. Hein. Hier, il y a eu une bonne ambiance, alors que 15 jours, il se faisait siffler. Ça va très vite. Alors après, tu le prends, mais il faut le prendre comme ça vient, parce que si tu n'en profites pas, tu sais que c'est toujours éphémère, hein, c'est pas toujours.
Cette finale, tu la regardes depuis les tribunes, depuis le banc de touche
Alors, j'étais toujours dans la tribune. Alors, on revient au quart de finale contre Tarbes. On a un quart de finale, déjà, je suis dans les tribunes, je vois qu'on ne va pas gagner. Bon, je descends un peu avant. J'ai préparé un discours pour récupérer tout ce qu'il y a de récupérable, parce que le mec, j'avais quand même les encourager à insister, à continuer, on avait fait un chemin, ce chemin, c'est le début. Et je me prépare dans la tête un discours. Et j'entends crier, un cri de joie.
Dans le vestiaire adverse ?
Non, dans le stade. Moi, j'étais dans le vestiaire tout seul. Dans le stade. Et quand au cri de joie, on me dit, on vient de marquer, on a transformé. Et après, second cri de joie, on me dit, on a transformé. Quand on est passé devant, je suis remonté dans la tribune. Et je suis allé à la fin du match pour les féliciter. Et là, pour moi, ça a été l'accomplissement de circonstances favorables qui font qu'il ne faut pas douter de des soirs, mais tu peux toujours espérer. Tu pouvais te fâcher avec des gens, mais il y a toujours quelque chose de bon à récupérer. Voilà, c'était un petit peu ma philosophie. Et après, je suis resté surtout sur cette... Mais après, je suis parti à l'équipe de France, je te dis, j'ai été nommé au comité directeur. J'ai resté 8 ans au comité directeur. Après, ils m'ont mis manager, là aussi. Parce que je faisais même peur là-bas. Mais c'est un autre niveau, c'est une autre façon, et j'étais pas trop à l'aise. J'étais pas. Le rôle. J'ai pas un rôle de président. Plus je m'écartais du terrain, moins j'avais de plaisir. Moi, j'ai le contact avec les joueurs, le contact avec l'herbe, avec le terrain, avec les espaces.
C'est là où tu étais le plus.
Mais les discours, les repas d'avant-match, tout ça, c'est.
Coup de sifflet final, vous êtes champion, Toulon est champion. C'est ton premier Brennus,
oui.
Aussi, à toi. Oui. Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'homme, à ce moment-là?
Oh, c'est pas une revanche, c'est quelque part une récompense, un peu, j'allais dire. D'ailleurs, ça c'est pour l'ensemble de ton œuvre, le titre de champion de France.
C'est un joueur qui te dit ça?
Ouais. Mais André, c'est pour l'ensemble de ton œuvre, mais depuis que tu y es, et que tout ce que tu as fait, mais voilà, tu as... T'es quand même champion de France, si t'as pas été en tant que joueur, t'es en tant que président, ou en tant que meneur de... Ouais, Non, mais c'est une satisfaction.
Il y a quoi? Il y a de l'émotion? Il y a de l'émotion intérieure, de l'émotion que tu...
Oui, il y a de l'émotion, bien sûr. Oui, ouais, bon, moi, je sais pas... Je suis assez... Oui, là, je suis pas trop exubérant. Hein. Mais, fondamentalement, tu as satisfaction, il y a pas de problème. Hein. Tu réussis un truc... J'ai fait des tournées, on a été joué contre les All Blacks ou les Springboks. Quand tu gagnes, tu as une satisfaction, tu as quand même le fait d'avoir assisté à un événement, parce que ça arrive deux fois dans ta vie. C'est toujours un peu collectif, c'est toujours un petit peu par rapport à mes copains, parce que je sais qu'il y en a qui vont, et après, ils vont s'arrêter, ou ils sont en fin de carrière. Et moi, je l'étais en fin de carrière, mais j'avais pris un autre chemin, quoi.
C'est aussi l'aventure vécue humainement.
C'est ça. C'est l'aventure. Ah oui, parce que cette aventure que là, en France, nous sommes la seule équipe qui a été champion de France avec 5 juniors. Il n'y a pas une équipe en France qui a présenté une finale avec 5 juniors et qui la gagne. C'est des titres qui nous restent. C'est qu'on ne peut pas partager cela.
Justement, 30 ans plus tard, qu'est-ce que tu gardes?
Moi, 30 ans plus tard, des fois, quand je vois des mecs qui roulent un peu, je me dis, écoutez, faites ce que j'ai fait. Moi, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'étais champion de France avec 5 juniors. Ah. Silence.
C'est rigolo parce que c'est aussi, ça donne raison à ce que tu as mis en place. Alors avec cette distorsion avec Daniel à l'été précédent, à l'été 91, où toi tu veux imposer des joueurs du cru, et ça te donne raison à ce moment-là.
Et là, ça me donne raison. Et ça m'a, dans l'ensemble, toujours donné raison.
Finalement, tu arrêtes en 92. Tu fais, t'as une saison de présidence.
Une saison de présidence.
C'est toi qui décides de partir.
C'est moi qui décide.
T'as fait une saison, t'as tout gagné.
Malgré tout, le rôle de président était assez important au niveau social. J'avais la responsabilité des finances, parce que c'est toi qui es responsable des finances, on avait des déficits importants. J'avais été appelé par le trésorier payeur général qui m'a fait venir. Il m'a dit, André, il faut déclarer les choses, vous ne déclarez pas ni les joueurs, ni ceux qui touchent. Tu vois, je venais de m'installer comme restaurateur. Enfin, ça faisait, je voulais pas perdre mon restaurant, je travaillais pas mal. Tu vois, j'avais des responsabilités. Et le fait que d'avoir obtenu ça, ça a été pour moi un aboutissement. Je me suis dit, je vais reprendre mon restaurant, ça me plaisait, ça marchait. Je profite de ma notoriété encore un peu. Et je dimanche après-midi, je vais au stade, ça m'a fait un petit peu de vacances. Voilà un petit peu la satisfaction d'avoir été champion de France comme président. Avec une équipe, je ne sais pas encore le truc que président, si j'avais eu une équipe, je ne vais pas être méchant avec qui que ce soit, mais quand tu as l'équipe qui a eu la porte, c'est quand même plus facile.
Oui, elle n'était pas taillée, c'est nécessairement cette équipe de 92.
Non, c'est pas taillée juste pour te qualifier en 3 ans. Quoi. Tout ce que tu peux espérer. 2 fois sur 3.
Est-ce que... J'allais te demander, est-ce que tu as préféré joueur, entraîneur ou président ? On a compris la réponse tout à l'heure. Oui. Tu préférais être proche du terrain. Le plus tu étais proche du ballon, le mieux tu te sentais.
Voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui a été le plus dur ? Qu'est-ce qui te faisait le plus de maux le soir à la tête quand tu rentrais ? Qu'est-ce qui t'a le plus fait de soucis ?
Eh ben c'est l'entraîneur. Hein.
C'est l'entraîneur ?
Ah ouais. C'est l'entraîneur, surtout que j'étais dans des conditions, comme je dis, moi j'étais ici, il n'y avait pas d'anciens joueurs. On a toujours recruté à Toulon, beaucoup, beaucoup recruté. Avant moi, c'était que des équipes préfabriquées. Et je n'avais pas d'anciens joueurs. Et je ne pouvais pas m'appuyer totalement sur des anciens joueurs toulonnais. Alors j'étais un peu. Je me retrouvais seul et j'étais content d'avoir. Tous les jours, la presse, à l'époque c'était des Gastinel, c'était des Robert Thérault, c'était des Bonavita, et tu vois, Lino Durant. Et tu as là, ou de bon, hein. Lino Durant notamment, il faisait le journal communiste, il faisait le petit Varrois. L'excité, mais alors, il y avait aussi il y avait un excité qui était infirme, il s'appelait Charles Lévy, il a fait des bouquins et tout. Tu peux revoir des articles de Charles Lévy, tu vas voir. Il faut le lire, c'est très explicite du tempérament d'un mec qui était avec une cale, hein, il était infirme. Hein, alors, il parlait de rugby. Ah ouais, il parlait de rugby avec une passion. Et ça, ça a été mes copains de référence, si tu veux. Ça a été eux qui m'ont laissé tourner toujours l'envie d'y arriver. Après, je m'étais rendu compte qu'en jouant, j'ai rencontré tous les joueurs, l'équipe de France aussi. Je me rends compte que tu ne te vois pas tellement quand tu joues. Mais quand tu es comparé après avec des mecs au départ que tu regardes comme ça, il y avait même des mecs qui n'étaient pas très gentils, qui se foutaient un peu de toi. Et que tu passes comme on dit, tu as la maille, quoi, que tu arrives à t'en sortir et même à être... apprécié, bon, ça te met confiance quand tu te dis, bon, ouais, je suis pas si nul que ça, ou j'ai pas de raison de me mettre toujours dans l'ombre de quelqu'un, il faut que tu passes devant. Quoi.
Est-ce qu'il y a une anecdote sur ce titre de 92 que tu n'as jamais raconté ?
Une anecdote.
On m'a dit quelque chose, tu me dis si tu confirmes. Donc on remet en contexte, il y a pas peu de recrues cet été-là, il y a notamment Aubin Hébert et Laglaise.
C'est ça.
Et Laglaise, un jour, il se strappait. Il se strappait et un jour, il t'a... Et donc, raconte-moi, il se strappait.
Eh bien, voilà. Laglaise, il était buteur. C'était un demi d'ouverture. Et il se strappait comme une deuxième ligne de l'époque, où il renforçait les genoux, il renforçait les chevilles. Il bouffait, et il m'a bouffé chaque fois, à chaque entraînement et chaque match, 4 tubes d'élastoplast. 4 bandes d'élastoplast. Et nous, comme si on était un peu à la rue, il fallait faire gaffe. Et. Alors j'avais dit putain, mais quand même. Parce qu'il mettait l'élastoplast, par exemple, il avait mal aux pieds, il mettait l'élastoplast sur les chaussures, tout, tu vois. Mais ça méritait. Et un jour, je lui ai dit, mais Frédéric Chamaille, tu ne joues pas dans deuxième ligue, tu es buteur, et tu as besoin d'élastoplast. Oh putain, il m'a dit. Moi j'avais dit, totalement, je me semble que ça ne m'en fait pas cadeau, mon élastoplast, il faut l'acheter. Oh putain, si tu as besoin d'argent, il m'a pris une pièce de.
De 5 francs.
5 francs, quoi, il m'a envoyé. Après, j'ai dit, je vais te la faire avaler, t'as compris? Donc, tu vas ouvrir la bouche.
Et la dernière question, pour je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce que tu as eu l'occasion de reparler avec Daniel de ce titre
qui Oui. Non, avec Daniel, maintenant j'en parle plus facilement. Je lui avouais, moi, il n'y a pas très longtemps, que j'avais fait une erreur, de ne pas l'avoir fait jouer pour la. Que j'avais le recul, je m'étais rendu compte que j'avais fait une erreur de ne pas l'avoir fait jouer pour la finale. Parce que je ne m'étais pas appuyé sur les qualités offensives, je m'étais appuyé sur les qualités défensives, alors que c'était ni mon tempérament, ni. Et que au détriment de mon frère en plus. Mais moi, je l'avais fait malgré tout avec de bonne foi. Hein. Je voulais surtout pas qu'on puisse dire que j'étais en train de, que j'aurais favorisé mon frère.
Et justement, ce titre de 92, donc, qu'il manque, est-ce que le soir, pas le soir même, mais est-ce que dans les semaines qui ont suivi, vous vous êtes vu, est-ce que
non.
Là, c'était trop.
On est resté longtemps sans parler de ça.
La plaie était trop ouverte à ce moment-là.
Voilà, je voyais une famille, hein. J'ai ensemble, mais en fait, on parlait pas de la vie. Alors, un peu, Daniel, il a rapidement percé, hein. Il avait quand même une certaine pédagogie et une certaine conviction pour entraîner. Mais bon, il avait moins de patience que moi, et surtout, je ne sais pas s'il avait discerné les bons joueurs qu'il avait dans le club à l'époque où il recrutait beaucoup, là, mais. On avait recruté 15 mecs, ou je sais pas combien. Là. Quand il est parti, tous ces mecs sont repartis. Voilà.
30 ans plus tard, merci de nous avoir reçus chez toi, André.
30 ans plus tard, je veux te dire, ça me fait plaisir que 30 ans plus tard, j'ai toujours un peu d'actualité. J'ai toujours au contact, des gens qui me reconnaissent, ou qui m'écrivent, qui m'envoient un truc. Tu n'as pas un fagnon, tu n'as pas ci, tu n'as pas.
Alors comment ils t'appellent, les gens dans la rue? André, Monsieur Héro, ouais. Le Grand.
Les tournées m'appellent Le Grand et l'autre m'appelle André. Carrément, ouais. Un temps, monsieur Héro, quand même. Mais en général, c'est André.
Bon, on se donne rendez-vous dans 10 ans?
Allez, j'espère. Enfin, je ne souhaite pas 10. Je souhaite encore vivre 5 ans au moins. J'ai un petit-fils qui s'est mis au rugby, qui joue au rugby et qui a des dispositions.
Il a quel âge?
Il a 14 ans. Il est moins de 14 ans. Là, il joue à la Seine. Il est brillantissime, Nicolas.
Il joue quoi comme poste? Il est jeune encore, mais.
Il est jeune, il a joué 3e ligne, et là, il joue 3/4 centre. Il joue à la Seine.
Bon, mais merci de nous avoir reçus, parce que voilà,
c'est
important pour nous.
C'est toujours un plaisir. Quand les gens sont sympas, déjà. Parce que, mais en général, c'est le cas, hein, parce que quand tu viens pour ça, tu vas me dire, c'est un bel signe, que tu me dis.
Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable, avec André Herrero, le grand qui a ramené Toulon au sommet.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un podcast de la rédaction des sports de Varmattan, Fabrice Michelier, Pierrick Illicru-Finati, Olivier Buisson, avec Sonia Bonin.